liberté, égalité, fraternité.
Une majorité de la société mise en esclavage.
Que l'argent public doit payer qu'une fois.
Et là, c'est la voix du peuple qui a parlé.
Revue de presse hebdomadaire.
2 de l'April.
So it is not just a free software problem.
Une volonté politique de prendre le contrôle du net.
Privatisation de ce bien commun.
Avec Luc et Manu.
Des mouchards dans nos ordinateurs.
Des coups de boutoir contre la neutralité du réseau.
Revue de presse de l'April, semaine 22, année 2012. Salut Manu.
Salut Luc.
Alors qu'est-ce qu'on a dans cette encore petite revue de presse ?
Oh, petite, je ne vois pas du tout de quoi tu parles, elle est énorme en plus cette semaine, on a 9 articles et j'ai même pas pu tout y caser dans les articles principaux, mais allez jeter un œil sur la version sur notre site web, il n'y a rien tel, ou sur le Linux.fr. Bref, nous avons parlé, et nous allons bien parler, de la députée Martine Billard, de ce qu'elle déclare sur le numérique et les libertés, l'affaire Google Oracle, et oui, ce n'est toujours pas terminé, on en parle encore, le brevet unitaire, un outil de marquage pour suivre l'open source et le logiciel libre à la trace, l'ACTA, petit article sur un gars qui a l'air d'être assez intéressant en Algérie, Jérémy Zimmermann qui a des problèmes avec le FBI, et oui, là c'est des grosses affaires, les législatives encore une fois, mais cette fois-ci c'est le pacte du logiciel libre, et pour finir, un article pas mal du tout, vraiment bien, qui va nous parler un petit peu du printemps érable que tu adores.
PC Impact, le numérique, les libertés et la députée Martine Billard, un article Marc Ris. Donc Martine Billard, pour ceux qui ont suivi les épisodes précédents de ces dernières années, ça a été un des fers de lance, disons même la principale députée qui s'est battue contre Adopi, avec l'aide de tous les geeks qui par internet écoutaient les débats qui étaient diffusés par internet, et commentaient, argumentaient, etc. C'était un gros travail collaboratif vraiment impressionnant, et Martine Billard était vraiment enchantée de cette coopération, elle était vraiment portée par ce truc-là, et donc elle a vraiment la cote chez les geeks, et en fait elle va être victime de charcutage électoral, c'est-à-dire que ça circonscription a été retaillée. Elle faisait partie de ces députés qui est arrivé un petit peu par surprise à Paris. Et donc elle va faire une intervention le 5 juin pour parler justement de toutes ces questions numériques, etc. Donc peut-être, c'est une opération de soutien en espérant qu'elle soit réélue parce que tout le monde l'aime beaucoup. Clubic.com, Google, Oracle, pas d'infraction de droit d'auteur pour les API Java, un article de Guillaume Belfiore. Alors, la semaine dernière, tu m'as promis que c'était fini Oracle, Google pour Java, tout ça. Tu m'as menti.
Oui, non, j'ai vraiment honte, mais ceci dit, l'affaire du point de vue des brevets logiciels est terminée. Ce coup-ci, c'est le droit d'auteur. T'as rien compris, t'as pas suivi. Ça, rien à voir, il se trouve juste que c'est les mêmes intervenants, le même juge, le même jugement. Rien à voir.
Mais sur les droits d'auteur, et là, seconde partie, seconde claque pour Oracle. Le juge estime que sur les éléments qui ont été codés, comme c'est des éléments assez simples et qu'il n'y avait pas 36 manières de faire, il dit on peut pas faire jouer du droit d'auteur sur un truc où il n'y a qu'une seule façon de le faire. S'il n'y a qu'une façon de le faire, tout le monde fait pareil et on bloque pas.
Oui, en gros, il a juste déclaré que les API, donc c'est les nommages de certaines librairies, ce n'était pas couvert par le droit d'auteur. Il y a eu 37 cas où Google réutilisait des noms, réutilisait des implémentations super basiques. Donc là, il s'est moqué simplement d'Oracle. Et heureusement, parce que là, il y avait beaucoup d'enjeux qui étaient derrière tout ça. Ça pouvait avoir des impacts sur plein de gens qui utilisent du logiciel, du libre, du propriétaire. Il n'y a pas vraiment de différence. Si on donnait un droit d'auteur, y compris sur les noms des choses, on était vraiment très embêtés. Donc là, très bien. On espère que c'est terminé. Je rappelle, c'était quand même un jugement qui avait des demandes de l'ordre de 6 milliards de dollars. Donc à l'origine, ça faisait peur à tout le monde. Et là, on est à la fin. En tout cas, on espère bien. Donc, en tout cas, quelque chose qui met de la force sur le côté libre des choses, parce que là, c'est ça qui en ressort, c'est le libre est grandi.
MaxiScience, April conteste le brevet unitaire discuté par les ministres européens, un article de la rédaction. Donc ça relaye nos positions sur le brevet unitaire. Le brevet unitaire, on en a parlé un petit peu. Donc là, c'était discuté en conseil compétitivité des ministres européens des affaires économiques et de l'industrie et de la recherche. Et donc le brevet unitaire, c'est ce programme européen qui vise à faire un système unifié des brevets sur toute l'Europe, puisqu'aujourd'hui c'est éparpillé un peu partout, c'est-à-dire qu'il faut faire des traductions dans toutes les langues, et si on a un problème, il faut attaquer dans chaque pays, etc. Donc l'idée, à la base, elle n'est pas mauvaise, mais les conditions sont un petit peu ambiguës, c'est-à-dire qu'il y a des gens derrière qui font leur beurre là-dedans, et qui ont tout intérêt à ce qu'on puisse breveter tout, n'importe quoi, à commencer par le logiciel.
Oui, c'est un beau bordel, ils profitent d'une idée qui est intéressante sur le papier, pour essayer d'y introduire des choses qui vraiment nous embêtent, le droit de breveter des idées, c'est rien d'autre, le brevet logiciel. Donc là, il y a eu un communiqué de l'April qui est relayé. Donc MaxiScience, c'est la première fois qu'on voit ce site dans la revue de presse. C'est très bien. Il y a eu d'autres articles, par ailleurs. J'ai pris celui-là parmi d'autres, pourquoi pas. Donc on ne sait pas trop comment ça va se dérouler. Je pense qu'on en reparlera. Le brevet unitaire, ce n'est pas un sujet qui est à sa fin.
Un marquage pour suivre le code open source à la trace, un article de David Foget sur silicone.fr. Donc il s'agit de quoi? De tatouer le logiciel?
Exactement, on va tatouer le logiciel. Il y a une grosse base de données qui a été constituée par Antelic, donc 210 millions de fichiers, 940 000 projets open source qui ont été reconstitués, remis en place, assemblés, analysés. Et tout ça pour pouvoir dire, voilà, quand j'ai un logiciel, sur quoi il est basé, quelles sont les briques qu'il constitue. Et il y a, à mon avis, quelque chose qui est plutôt symbolique. Ils ont remonté une notion et un outil de code barre 2D avec un outil qui s'appelle le FOSS Barcode Tracker. FOSS, ça doit être Free and Open Source. Oui, on fait toujours la différence. Free and Open Source Software. Et donc, on aurait des codes barres, peut-être sur de la documentation, sur des boîtes, sur des voitures, je ne sais quoi, qui permettraient de retrouver le logiciel qui est inclus dedans, ou les logiciels qui sont inclus dedans, leur numéro de version, leur nom, l'adresse où on peut télécharger le code source. Donc, des choses intéressantes.
Il faut préciser que c'est à l'initiative de la Fondation Linux, et que l'entreprise va fournir, en fait, que tu citais au début, fournit la base de données des logiciels. Le projet Barcode est lancé par la Fondation Linux. Numérama, ACTA, les opposants se félicitent du rejet des commissions parlementaires, un article de Julien L. Donc c'est la très bonne nouvelle de la semaine dernière. Et la question de ACTA, donc ACTA, cet accord anti-contrefaçon qui intègre énormément de choses, y compris des trucs sur les copies de fichiers et avec des trucs vraiment très mauvais, on en a parlé assez régulièrement, est passé devant trois commissions du Parlement européen. La commission ITRE, donc relative à l'industrie, jury sur les affaires juridiques, et LIBE, ou LIB, je ne sais pas comment on dit, sur les libertés civiles. Et en fait, les trois commissions ont voté contre l'adoption d'ACTA. Pour certains cas, le vote a quand même été très serré. C'était notamment le cas sur ITRE, sur le côté industrie. En revanche, sur le côté liberté civile, c'était largement acquis. Alors, c'est une très bonne nouvelle, mais ça ne règle pas tout.
Oui, parce que là, de toute façon, ce ne sont que des députés qui sont mis en commission. Au final, l'important, c'est le vote du Parlement. Ceci dit, ça préjuge dans le bon sens. Ça veut dire que une bonne quantité de députés, déjà, quand ils se mettent de côté, réfléchissent en se focalisant sur un point de vue particulier, bien, ils en arrivent à la conclusion qu'ACTA n'est pas intéressant. Donc c'est déjà un bon point, sachant qu'en plus, dans ces commissions, il y en a au moins une qui est supposée être très conservatrice, et conservatrice dans le sens où elle veut aller dans le sens des entreprises et leur donner des droits et des capacités à revenus sur investissement et tout ça. C'est encore un peu mieux. Donc on attend, il y a deux autres commissions qui doivent discuter ou qui sont en train de le faire en ce moment. Je crois qu'il y en a une qui vient de voter contre. J'ai entendu Zimmermann qui en parlait sur une conférence où j'étais cet après-midi. Donc des bonnes choses. Ça n'empêche, il faut continuer à se battre. Et il y a des manifestations encore qui vont être contre ACTA. C'est peut-être pas forcément beaucoup de monde, mais moi je crois que je vais y aller samedi. Donc venez.
Oui, la prochaine samedi. Et effectivement, il faut continuer, puisqu'en face, l'article cite qu'il y a quand même un intense lobbying en faveur d'ACTA, donc il n'en reste pas silencieux. Notamment, l'ambassade des États-Unis, dit l'article, a pesé très très fort sur les différents pays et sur les membres de la commission.
Oui, puis il ne faut pas oublier que même si on gagne contre ACTA, eux, ils ont des moyens illimités ou presque, ils ont du temps devant eux, ils ont des gens très intelligents, donc même si l'ACTA est remis à la poubelle, on peut s'attendre à quelque chose d'autre derrière, sous une autre forme peut-être, avec un autre nom. Ça, ce n'est qu'une bataille parmi d'autres, hein. Ce n'est pas terminé, loin de là.
Maghreb émergent, l'open source fait son petit bonhomme de chemin en Algérie. Donc une interview menée par Abdelkader Zahar, et qui est une interview donc de Abdelkader Edoud. L'article est sympa, c'est une interview de quelqu'un qui connaît bien le libre, qui parle de la base, hein, des principes, des quatre libertés, etc. Mais on retrouve bien le vrai bon logiciel libre comme on l'aime. Pas de tartinage d'open source, même si on retrouve quand même le mot un petit peu. Mais en tout cas, la personne interviewée est vraiment sur un truc nickel. Après ça, bon, il n'y a pas d'informations totalement nouvelles, etc. Mais l'article est très sympa. Et donc voilà, cette personne, Abdelkader Edoud, est directeur du campus numérique d'Alger. Si vous connaissez le sujet, vous n'apprendrez pas grand-chose. En tout cas, ça montre que ça bouge en Algérie et sur les principes. Donc c'est très sympa. L'informaticien Jeremy Zimmerman, interrogé par le FBI sur Julian Assange, un article d'Oriane Vatin. Donc voilà, on est en pleine affaire d'espionnage. Jeremy Zimmerman, arrêté par le FBI à l'aéroport.
Oui, il faut de la musique. Alors, attention, le FBI, ce ne sont pas des gentils dans l'histoire. Juste pour rappel, je ne vais pas vous donner toute l'histoire, mais Julian Assange, c'est un des gars qui est à l'initiative de Wikileaks. Wikileaks, ils ont chié dans les bottes des institutions américaines, notamment des choses liées à l'armée, hein, donc c'est des choses qui sont importantes, on ne rigole pas avec ça. Et donc Assange, il est embêtant, et il se trouve qu'en plus, en Suède, il a été accusé, mais de manière un peu bizarre, un peu alambiquée, même pas accusé tout à fait, on veut le questionner à propos de problèmes sexuels qu'il aurait eu avec des petites amies, des idioties vraiment, c'est-à-dire que c'est même pas qu'il est accusé de viol, c'est juste qu'on voudrait lui poser des questions, sachant que quand il est parti de Suède, puisqu'il en était parti il y a bien 2 ans maintenant, il avait demandé l'autorisation de partir et la juge de l'époque l'avait laissé faire sans problème. Maintenant il est en Angleterre, il y a un ordre d'extradition, ce qui est quelque chose d'extraordinaire pour des problèmes sexuels finalement assez mineurs en comparaison d'autres. On attend de voir.
Il faut savoir qu'au moment où ça faisait pas mal de scandales, notamment les associations de femmes violées, etc., étaient scandalisées en disant qu'il y a des affaires absolument abominables, des trucs d'une violence terrible où il n'y a aucune extradition. Et pour ce machin qui sent un peu le coup monté à plein nez et qui, même si c'est pas le cas, est une affaire quand même beaucoup plus légère, là il y a de l'extradition. Et donc voilà, ça avait fait grincer pas mal dedans. Et donc Jeremy Zimmerman, qui connaît bien Julian Assange, a été questionné. Ça n'a pas été le seul, manifestement, nous dit l'article. Bon voilà, c'est un peu pour l'anecdote. PC Impact, législative, 277 candidats ont signé le pacte du logiciel libre, un article de Marc Riss, à nouveau. Donc un relais de notre campagne candidat.fr, on en avait parlé pour les présidentielles, et on remet le couvert pour les législatives. Le pacte du logiciel libre, là, pour le coup, c'est pas des questionnaires très pointus qu'on envoie pour les présidentielles, c'est une lettre d'engagement simple, qui tient sur une page, pour que le candidat à la députation dise « voilà, moi je m'engage à promouvoir le logiciel libre, etc. » Donc ça marche plutôt bien, vous pouvez vous rendre sur la plateforme candidat.fr pour aller démarcher vos propres candidats localement et leur dire « signez le pacte ». Si ça vous tente, c'est quelque chose qu'on mène à chaque élection.
Alors ce qui est recommandé, moi je ne le fais pas parce que je ne vais pas au marché, mais si vous allez à votre marché, quand vous rencontrerez la personne qui veut être nommée candidat, qui veut être élu candidat, eh bien en échange du tract qu'elle va vous donner, vous lui donnerez vous-même un pacte du logiciel libre et puis éventuellement vous l'aiderez à comprendre un petit peu de quoi il s'agit pour l'engager à signer ce pacte. Comme ça, il y aura un échange un petit peu égal entre deux personnes sur la place du marché, c'est toujours sympa.
Ledevoir.com, logiciel libre, l'équivalent de la hausse en économie, point d'exclamation. Donc c'est pas un article, c'est une lettre ouverte par Benoît de Ligneris, Cyril Béraud et Daniel Pascot. Ça se déroule au Québec, bien sûr. C'est une lettre ouverte au ministre de l'Éducation et la présidente du Conseil du Trésor. L'idée, c'est un peu de surfer sur tout ce qui se passe actuellement au Québec, où c'est la révolte des étudiants, le printemps érable, j'adore cette expression. Et qui se sont levés initialement contre la hausse des frais de scolarité, genre plus 80% d'un coup, enfin des trucs qui font un petit peu mal. Et on sait qu'au Québec, il y a la question du renouvellement de toute informatique, puisque Windows XP va arriver enfin de support et qu'il va falloir remettre tout ça à jour, que ça a coûté un chiffre estimé à 1,4 milliard de dollars. Et ces gens qui sont dans le logiciel libre, dans les entreprises du logiciel libre, font remarquer que, choisissant une solution libre plutôt que Microsoft, on pourrait financer la moitié de l'argent nécessaire pour les étudiants.
Oui, alors exactement, l'augmentation des droits de scolarité correspondrait à 964 millions de dollars. La migration, c'est 1,4 milliard, mais eux, ils font le calcul simple. Ils disent, effectivement, il faut faire une mise à jour quand même des logiciels et peut-être des ordinateurs, mais les 1,4 milliard, c'est vraiment trop. En plus, c'est pour les donner à une entreprise multinationale américaine, il n'y a pas lieu. On pourrait vraiment économiser la moitié des 964 millions de dollars en passant à du libre, tout simplement, ou même en essayant de faire vivre un peu plus longtemps les ordinateurs. En tout cas, laisser tous ces problèmes créer les étudiants qui sont dans la rue et qui hurlent parce qu'on va les faire payer et qu'ils n'ont pas forcément les moyens, loin de là, c'est idiot quand on voit qu'on a de l'argent à côté qui est donné à rien faire parce que du logiciel propriétaire, ça, c'est une vache à lait, c'est pas utile, c'est pas productif, c'est du gâchis.
Voilà, alors l'article est un petit peu surfe un peu sur la vague, mais il a le mérite de rendre les choses un peu matérielles. Voilà, on paye son Windows, on paye son Microsoft Office. L'unité, ça coûte pas si cher, et puis on achète un ordinateur qui coûte cher, tout ça. Et on s'aperçoit que tout ça mis bout à bout, ça fait beaucoup d'argent, et que ça a des conséquences, et que tout l'argent qu'on met là-dedans, on ne met pas ailleurs. Eh ben Manu, merci.
Merci Luc, et puis merci à Divergence. À la semaine prochaine.
Salut.
C'était la revue de presse de l'Association pour la promotion et la recherche en informatique libre, l'April, proposée par Luc Fievet et Manuel Charpentier. La revue de presse de l'April, c'est aussi dans Divergence Numérique, tous les jeudis à 12h30 et 17h30.